Chronique politique avec Gaétan Lelièvre qui est avec nous cette semaine. Évidemment, COVID-19 oblige. On suit ça depuis les dernières semaines. On va en parler avec lui. Bonjour, Gaétan Lelièvre.
Oui, bonjour.
Alors, ce que vous avez noté, vous, au cours de la dernière semaine, c'est que du côté du gouvernement de François Legault, on a l'impression là que on a besoin d'aide et c'est pas le scénario qu'on pensait ou qu'on souhaitait qu'il se passe à ce moment-ci.
Oui, on se rend compte que le gouvernement doit rapidement faire des 180 degrés, doit s'ajuster. Chaque jour, on entend le point de presse du premier ministre Legault avec des éléments nouveaux. Même souvent, on assiste à des réajustements là très rapides de l'appareil gouvernemental. Puis cette semaine, moi, il y a deux éléments qui m'ont frappé au plan politique. C'est l'engagement de l'ex-chef de cabinet du ministre de la Santé, bon, sous le règne de Philippe Couillard, c'est-à-dire Dr. Barrette. Donc, l'ex-chef de cabinet du Dr. Barrette, qui vient d'être engagé comme sous-ministre adjoint aux projets spéciaux. Ça, je ne doute pas des compétences de la personne. Je ne le connais pas vraiment. Je n'ai pas à remettre ses compétences en question, sauf qu'au plan politique, moi, ça m'a frappé. Ça démontre comment le gouvernement doit prendre des décisions qui sont, je dirais, très, très extraordinaires, qui sont très particulières parce que au plan politique, là, d'engager le bras droit du ministre de la Santé qui a fait tout ce branle-bas de combat au niveau de la santé, le ministre Barrette, qui a chambardé notre système de santé dans les 4 dernières années, son bras droit, son chef de cabinet a été nommé cette semaine sous-ministre adjoint à la santé avec le gouvernement au sein du gouvernement Legault. C'est toute une nouvelle. Là, donc, j'espère que cette personne-là est extrêmement compétente. J'espère qu'il va mettre ses compétences-là à bonne fin cette fois-ci parce que, en tout respect, lors de son passage au ministère de la Santé avec le Dr. Barrette, pour moi, ça a été un massacre, la santé, là, sous ce gouvernement-là.
Mm-hmm. Donc, oui,
on parle aussi d'une autre nomination qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, Dominique Savoie, une personne que j'ai croisée là, à Québec, là, dans les officines gouvernementales à plusieurs reprises.
Au ministère des Transports.
Au ministère des Transports, effectivement. Oui. Bon, pour sa fameuse déclaration où elle a dit publiquement qu'elle n'avait pas d'ordre de recevoir d'un ministre, elle a été transférée, mutée. Bon, on ne sait plus trop où ce que c'est ramassé, là, finalement, aux ressources naturelles. Puis là, on revient, on va la chercher. On la nomme comme directrice dans un poste très stratégique au niveau du ministère de la Santé pour tenter de régler tout le cafouillis de l'approvisionnement des ressources médicales. On sait que le gouvernement nous dit qu'on a des denrées médicales, ils sont au central, mais les établissements sur le terrain disent qu'ils n'en ont pas. Donc, c'est un poste sur mesure pour Dominique Savoie, qui est reconnue pour être une femme là
d'action.
Qui mène à 100% d'habitude. On l'appelle le bulldozer là, dans les médias. Ben, elle porte son nom, donc c'est quelqu'un qu'on est allé chercher. Encore là, quelqu'un des officines de l'ancien gouvernement libéral qui est amené au front pour tenter de régler le problème d'approvisionnement au niveau de la santé. Donc, deux nominations qui, au plan politique, sont extraordinaires. On n'aurait pas vu ça normalement, mais là, il faut croire que le gouvernement a besoin de bras, pas juste dans les CHSLD, il en a besoin de bras autour de lui. Deux nominations à suivre. Des gens qui ont leur preuve à faire, qui ont peut-être une réputation à se refaire. Donc, un gros défi pour ces deux personnes-là.
Gaétan, vous l'avez dit, hein, dans le fond, on est dans une situation extraordinaire. On n'a jamais vécu ce qui se passe. Donc, ce genre de choses qu'on n'aurait pas vues auparavant se produit peut-être justement pour ces raisons-là. Là, on s'entend. De même que être obligé de demander à l'armée d'aller dans les CHSLD, de mémoire, on n'a jamais vu ça, là.
Effectivement. On ne s'est jamais vu, puis il faut l'admettre aussi. Le premier ministre l'a dit dans l'entrevue cette semaine. On peut bien essayer de trouver des failles, là, mais on nage dans l'inconnu. Là. C'est une première mondiale, donc le gouvernement doit s'ajuster constamment. Bon, on a senti que le gouvernement Legault hésitait à faire venir l'armée. Ça a été le dernier recours, mais devant l'appel répété à différents corps de professionnels, incluant les médecins spécialistes, incluant aussi... Hier, on apprenait qu'il y avait 10 000... employés du réseau des CHSLD là, et des soins de longue durée qui sont en dehors du système. Là. La moitié sont atteints du COVID, entre 4 et 5 000. Puis l'autre 5 000, pour des raisons différentes, X, Y, Z, là, ont décidé de ne pas rentrer au travail. Donc, il manque 10 000 personnes dans les CHSLD. On ne peut pas réussir dans la société civile à trouver des gens aussi vite qu'on pensait. Donc, on a dû se tourner vers l'armée. On a vu que M. Trudeau a fait un petit... Une petite jambette au ministre, au premier ministre Legault hier en disant oui, on va y aller, mais c'est pas la place des soldats à être dans les CHSLD. On va devoir demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD au Québec? On voit que la politique commence à s'installer entre les deux premiers ministres.
Oui, mais l'Ontario aussi en a eu. Puis en même temps, on peut dire aussi que c'est encore une fois, et je l'ai entendu répondre François Legault en disant. C'est une situation exceptionnelle qui demande des mesures qu'on ne voit jamais exceptionnelles. C'est un peu ça qui a répondu à Justin Trudeau lorsqu'on lui a posé la question. Donc, la réponse est venue rapidement de sa part. Là.
Je pense que c'était la bonne réponse aussi, effectivement. On va tous s'entendre pour dire que c'est on est dans l'inconnu. C'est une première fois qu'on vit une pareille crise, puis on doit s'adapter. On l'a vu, on s'adapte au plan politique, on doit s'adapter au niveau des ressources. Dans les CHSLD, puis l'armée, c'est spécial d'en arriver là, mais est-ce que le premier ministre Legault avait d'autres choix, d'autres alternatives? Comme il dit, ça nous prend des bras, pas nécessairement des gens avec des formations spécialisées, ça nous prend minimalement des bras, des gens en bonne santé pour aller aider les aînés. Écoutez, 10 000 personnes, là, c'est du monde à remplacer, là. C'est beaucoup, là. Donc je pense que la décision est justifiée, on était rendu là.
Oui, et parlons un petit peu maintenant. On parle beaucoup d'immunité naturelle de ces temps-là, parce que ça, c'est le discours qu'on a servi aussi hier, et ça a marqué un revirement de situation. On dit, il me semble que ça a fait un point différent, parce que depuis des semaines, on dit aux gens qu'il faut rester confinés, limiter nos déplacements, puis que c'est un virus qui est virulent, etc. Mais là, on change un peu le discours, puis on dit maintenant, oui, il faut commencer à sortir parce qu'il faut commencer à être immunisé pour l'automne prochain, parce que ça risque d'être pire, là.
Effectivement. Il faut toujours se rappeler qu'on apprend. On apprend jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Qui nous aurait dit que, à la mi-mars, quand le gouvernement a émis les premières mesures de confinement, qui nous aurait dit que, par exemple, il y aurait eu 80 % des victimes qui sont des gens demeurant dans les CHSLD? Qui nous aurait dit que 90 % et plus des personnes qui sont gravement malades sont des gens de 70 ans et plus? Qui nous aurait dit que les jeunes s'en tiraient aussi bien, les jeunes en bonne santé? Donc, vous savez, la seule information qu'on avait, Richard, c'était l'information qui venait de la Chine. Seule la Chine l'a eue avant nous. Et tout le monde doute de la validité de l'information reçue de la Chine. Puis est-ce qu'on a reçu tant d'informations? Moi, j'ai suivi les nouvelles de façon assidue. Puis il y a un mois passé, on ne savait pas tout ce portrait-là que je viens de vous brosser, que ce serait surtout des personnes âgées, que les jeunes attraperaient ça, mais que ce serait à peu près comme un simple rhume. Donc là, on apprend. On a voulu éviter, dans le fond, que l'engorgement des hôpitaux. Donc, on a émis des mesures de confinement très sévères. Ça a fonctionné, les gens ont écouté, puis on se rend compte qu'il y a des foyers précis au niveau, surtout des CHSLD qui regroupent 80 % des victimes au Québec. Donc maintenant, on sait que le portrait est très différent d'une catégorie d'âge à l'autre. On sait aussi qu'on a à peu près 10 % des gens au Québec qui ont été atteints du coronavirus après un mois et demi. Donc à ce rythme-là, le gouvernement se rend bien compte qu'on va arriver à l'automne. Si on maintient le confinement, on va arriver à l'automne avec un pourcentage très bas de gens qui vont avoir été infectés du coronavirus. Et la crainte du gouvernement, parce que le gouvernement, son rôle, c'est de se projeter toujours en avant, toujours voir plus loin, le plus loin possible. Puis c'est son rôle de planifier. Puis là, les gens de la santé publique et le politique savent bien qu'à l'automne, il va arriver encore une période d'influenza normale, saisonnière habituelle. Et souvenons-nous, les nouvelles, là, qu'est-ce qu'on entend des nouvelles, là, surtout dans les grands centres, là. On parle de 125-150 % de taux d'occupation dans les hôpitaux à cause de l'influenza saisonnière habituelle. Ben, si on ajoute le coronavirus, le COVID-19, en plus de ça, ça va être terrible comme impact. Donc, le gouvernement, à partir de la lecture des 6 dernières semaines, je pense, s'oriente vers un déconfinement progressif, contrôlé, pour qu'il y ait une partie de la population qui s'immunise de façon naturelle et éviter qu'on a vraiment là un choc terrible à l'automne avec le rendez-vous ou la rencontre des deux virus, l'influenza normale ou habituelle et le COVID-19. Donc, c'est une question de planification toujours. Là. Moi, je comprends l'orientation du gouvernement. À première vue, on peut penser qu'elle est contradictoire. Moi, j'appellerais pas ça contradictoire. J'appellerais ça une approche évolutive basée sur la connaissance des faits. Puis l'expérience des 6 dernières semaines, c'est incroyable. On doit prendre des mesures sur à partir d'une expérience de à peine 6 semaines. C'est énorme pour le gouvernement, le défi qui se présente à lui présentement.
Oui, et puis on le voit, ça évolue rapidement. Là. Dans une semaine, on commence la semaine en nous parlant d'un sujet en particulier. Puis à la fin de la semaine, là, ça peut avoir changé où on voit que qu'on va peut-être faire différemment. Donc, ça évolue là, rapidement à ce moment-ci. Là.
Oui, la différence avec cette maladie-là, c'est qu'on n'a pas d'historique, on n'a pas de connaissances. C'est un phénomène mondial, planétaire, nouveau. Et le hasard a fait que le pays qui a été le premier touché, la Chine, est un pays avec un système politique très différent. On parle d'un système communiste avec une dictature et il y a très peu de communication, très peu d'informations qui ont sorti de façon objective. On doute de l'information encore aujourd'hui qu'on reçoit de la Chine. Donc, on a perdu là, ce 3 mois-là d'historique qu'on aurait pu avoir pour mieux planifier l'arrivée de ce virus-là ailleurs sur la planète. Malheureusement, c'est arrivé dans un pays où les communications sont très fermées, puis l'expérience qu'ils ont vécue 3 à 4 mois avant nous, bien malheureusement, on ne peut pas en bénéficier. Donc, on apprend jour après jour, ici puis ailleurs, partout sur la planète. Ce n'est pas mieux ailleurs. Là.
Alors, on verra évidemment qu'est-ce que ça va donner. On va avoir le plan la semaine prochaine, de toute façon. Le gouvernement a promis de présenter un plan sur de déconfinement, autant pour la population que pour les commerces aussi. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et on pourra sûrement commenter et voir cette application-là. Et puis, voir aussi si ce sont les régions comme la nôtre qui seront les premières, justement, parce que c'est ce qu'on semble comprendre aussi. Donc, les régions où on est moins touchés qui pourront avoir un déconfinement peut-être plus rapidement. Là.
Dans le fond, là, on doit constater que Montréal et Québec ne sont pas confinés. Donc, l'épicentre là, du COVID-19 est vraiment dans la région de Montréal, Laval, là, dans la couronne autour de Montréal. Donc, ces régions-là ne sont pas confinées. Donc, c'est clair que si on ouvre les barrières, si Québec, Montréal et la couronne autour de Montréal n'est pas confinée, la Naudière, Montérégie, c'est clair qu'on va aller vers les régions hors métropole et hors capitale nationale. Donc, on tombe l'Abitibi, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que ça va être ici qu'il risque d'avoir un déconfinement parce que les grands centres ne sont pas confinés. C'est spécial. On peut passer de Québec à Montréal ouvertement. C'est là qu'il y a 50 % de la population du Québec. Donc, le confinement s'est fait dans les régions, comme la Gaspésie. Donc, c'est certain que s'il y a déconfinement, par la force des choses, ça ne peut être que dans les régions. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter, puis moi, ce que j'espère, c'est que le gouvernement va y aller de façon progressive, très progressive, avec... dans le fond, une méthode essai, par étape. Puis, si jamais on voit qu'il y a une recrudescence du virus, il faut revenir immédiatement en confinement ou en semi-confinement. Mais ça va être un peu essai-erreur, je pense. Là, on est en période d'apprentissage, comme on le disait tantôt. Puis, j'espère aussi que les mesures vont être des mesures modulées, adaptées à chaque secteur. Il ne faudrait pas ouvrir la valve partout au sein des régions. Peut-être choisir des secteurs économiques à privilégier d'un premier temps. Même chose dans les écoles. Si on ouvre les écoles, bon, les enfants qui ont des problèmes de santé devraient, à mon avis, faire l'objet d'un traitement particulier. Les enfants dont les parents sont affectés aussi par des problèmes de santé graves, les enfants qui ont des personnes âgées dans la résidence familiale, il faut faire preuve de souplesse. Là. Il n'y aurait rien de pire qu'une intervention mur à mur. On l'a souvent dit, hein, même avant le COVID-19, le mur à mur, ça n'a jamais bien servi les régions. Ça ne sert pas grand monde de façon correcte. Donc, il faut... Mais je pense que le gouvernement se dirige, là, dans son discours, ce qu'on entend avec la santé publique, c'est une approche progressive, modulée. Et moi, mes attentes, c'est que le gouvernement fasse justement l'objet d'une approche progressive, par étapes, et tenir compte là, de l'ensemble des particularités d'une région et non pas ouvrir la valve là, à 100% immédiatement. Je pense qu'il faut être très, très prudent quand même. Mais le déconfinement m'apparaît incontournable pour éviter le pire qui pourrait être à l'automne et à l'hiver 2021.
Gaëtan Lelièvre, merci. On se reparle la semaine prochaine. On verra ce plan-là du gouvernement et on pourra l'analyser ensemble. Merci bien.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.